Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette conférence PwC Focus sur le thème règlement DORA, décryptage, enjeux et partage d'expérience. Cette conférence aujourd'hui se tiendra dans un format hybride, en présentiel, ici avec l'ensemble de nos intervenants dans notre Experience Center à Paris, et en distanciel avec près de 400 personnes inscrites aujourd'hui à cette conférence, ce qui représente plus de deux fois plus de participants que la même conférence l'année dernière à la même période. C'est dire l'intérêt du sujet aujourd'hui. Au cours de ces derniers mois, de ces dernières semaines, nous avons eu plus de 300 interactions avec l'ensemble de nos clients en France, banques, compagnies d'assurance, prestataires de services en technologie de l'information et de la communication, prestataires de services TIC, à propos de DORA. Et à chaque fois, on a eu de nombreuses questions sur l'interprétation, bien sûr, des exigences, on va y revenir aujourd'hui, et sur les conditions de mise en application, ce qui témoigne, bien sûr, de l'importance du sujet et de son actualité. Dans l'actualité, bien sûr, il y a eu le 10 novembre dernier l'adoption du règlement DORA, le même jour que l'adoption de la directive NIS 2. Le moment nous semble donc aujourd'hui bien choisi pour parler avec vous de ce sujet et bien sûr pour répondre à toutes vos questions. Je m'appelle Romain Camus, je suis associé chez PwC en charge de la gestion des risques technologiques, spécialisé dans le secteur bancaire, et j'aurai le plaisir d'animer cette conférence aujourd'hui. Nous avons le plaisir d'accueillir un certain nombre d'intervenants, des invités de marque, pour répondre à nos questions et faire un retour d'expérience aujourd'hui. Aziza Alilem, bonjour. Vous êtes responsable de pôle gouvernance, risque cyber et risque systémique au service des affaires internationales à la CPR. Jean-Baptiste Feller, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chargé de mission au service des affaires internationales banque de la CPR également. Céline Samin, vous êtes en charge du risque opérationnel et de l'information et du contrôle interne chez AXA. Bonjour. Caroline Serval, bonjour. Vous êtes Chief Operating Officer en charge des opérations et de l'IT, de la technologie au sens large, chez LCH. Et à mes côtés, côté PwC France, Karine Pariante, associée en gestion des risques technologiques spécialisée dans les compagnies d'assurance, bonjour. Et Jamal Basrir, bonjour. Associée en charge de nos activités cyberintelligence en France et au Maghreb.
Bonjour à tous.
On a prévu aujourd'hui 1h30 de présentation avec 10 minutes de questions-réponses à la fin de cette présentation. Alors, on a reçu beaucoup de questions en amont de cette présentation. Vous avez laissé la possibilité d'envoyer vos questions et je vous en remercie au nom de PwC. On a prévu de les aborder à la fin de la présentation. Bien sûr, pour ceux qui sont en distanciel, vous avez la possibilité de continuer à adresser vos questions via le chat sur la plateforme. Et ce, tout au long de la conférence, donc n'hésitez pas. On a prévu de vous y répondre peut-être après la réunion, si jamais on n'a pas le temps de le faire pendant. Notre objectif est de finir à 12h30 précise aujourd'hui. L'agenda aujourd'hui, vous le voyez à l'écran, on a prévu de démarrer par un panorama des évolutions réglementaires au niveau des banques et des compagnies d'assurance. Ensuite, de vous faire une présentation, et la CPR le fera, du cadre général de DORA. Ensuite, d'arriver sur un partage d'expérience avec une table ronde avec nos invités. Donc, on parlera de l'expérience de LCH et d'AXA. Et puis, enfin, on échangera sur les modalités de mise en conformité. Donc, on vous fera un retour d'expérience sur les missions que nous pouvons mener actuellement sur le sujet. Et puis, enfin, un jeu de questions-réponses. Je propose, donc, on va démarrer tout de suite sur la première section. Je vais laisser la parole à Karine qui va vous faire un point sur, et vous allez voir, les évolutions récentes qui ont pas mal évolué ces derniers temps.
Merci Romain. Donc, je vous propose dans un premier temps déjà de repositionner la réglementation DORA dans l'ensemble du paysage réglementaire actuel qui est applicable aujourd'hui aux institutions financières afin peut-être de mieux comprendre par la suite les enjeux et les impacts liés à cette nouvelle réglementation. Donc globalement, hein, on voit apparaître finalement ces dernières années une évolution importante des orientations réglementaires pour le secteur financier, poussée par une accélération des transformations numériques hein, pour un certain nombre d'acteurs de la place, avec des gros projets en fait, de transformation au niveau des systèmes d'information, que ce soit pour les banques ou pour les compagnies d'assurance. Et à cela va s'accompagner finalement un certain nombre d'enjeux de place auxquels sont confrontées les institutions financières, et notamment une augmentation du nombre de cyberattaques qui peuvent avoir des impacts importants en termes de continuité d'activité pour une organisation. Des interdépendances de plus en plus fortes entre les réseaux, les infrastructures et plus généralement au niveau du paysage informatique au sein d'un même groupe. Et dans un environnement où finalement les compagnies d'assurance, les banques ont besoin d'accéder de plus en plus à des données internes, des données externes, donc qui représentent finalement un actif pour l'entreprise, pour mieux piloter leur activité. Et enfin, finalement, dans un contexte où on voit une dépendance de plus en plus accrue auprès de prestataires externes, auprès de tiers informatiques, dans le cas d'une externalisation de tout ou une partie des processus. Alors, finalement, dans ce contexte, jusqu'à présent, le cadre réglementaire autour des risques liés aux technologies de l'information et de la communication et la sécurité de l'information était jusqu'à présent assez fragmenté, assez hétérogène. On n'avait pas de règles finalement harmonisées sur la gestion du risque informatique et en matière de cybersécurité. Une multiplicité également des exigences en matière de reporting des incidents. Un risque également de concentration qui était en hausse, des tests pas très coordonnés et un partage limité finalement des informations en matière de cybermenaces et du coup qui limitait au niveau de l'Union européenne la possibilité d'avoir une surveillance adéquate. Alors, du coup, d'où la nécessité finalement de renforcer l'aspect réglementaire autour de la résilience opérationnelle numérique, puisque c'est de ça dont on parle aujourd'hui avec Dora, au niveau du secteur financier. Alors, ce renforcement du cadre réglementaire, il a commencé déjà depuis plusieurs années au travers d'un certain calendrier que vous voyez indiqué ici. On a essayé dans ce slide de remettre les grandes dates en matière de publication des orientations. Alors vous voyez dans la partie haute du slide tout ce qui concerne la banque et dans la partie basse ce qui concerne les compagnies d'assurance. Et donc, on voit déjà que depuis 2018, donc là, on a indiqué les dates d'entrée en application pour faire plus simple, on avait déjà un certain nombre d'orientations qui ont été poussées donc, par les autorités européennes de supervision, les ESA, à la fois sur l'externalisation, également sur la gestion des risques technologiques et de l'information et la cyber-résilience. Et donc, on retrouve un certain nombre de thématiques qu'on va retrouver dans Dora autour de l'externalisation, des risques informatiques et également de la sous-traitance auprès de prestataires de services en cloud. Donc, que ce soit l'IBA, l'ESMA ou les IOPA, en fait, il y a eu un certain nombre de publications donc, par ces autorités européennes maintenant depuis bientôt 3 ans. Et donc, si on parle de Dora, plus précisément, donc le 24 septembre 2020, la Commission européenne a publié donc le projet de règlement Dora. Et comme l'indiquait Romain tout à l'heure, le 10 novembre dernier, donc le Parlement européen a adopté le texte. Alors, les dates importantes à retenir par rapport à Dora, par rapport à ce texte, c'est bien sûr, on attend l'entrée en vigueur début 2023 du règlement Dora, pour une entrée en application du texte début 2025. Et dans ce laps de temps entre 2023 et 2025, la publication d'un certain nombre de textes de niveau 2, donc des RTS ou des ITS, donc des textes d'application, qui vont permettre de donner un éclairage pour comprendre de façon plus opérationnelle, plus concrète, comment mettre en œuvre cette réglementation Dora. Alors, si on va un tout petit peu plus loin pour comprendre finalement le paysage réglementaire, c'est vrai que Dora va permettre d'avoir un cadre unique, un cadre commun sur le sujet, avec, en reprenant finalement tout ce qu'on vient de se dire, tout ce qui a été publié en matière d'orientation par les autorités européennes de supervision, et également reprendre les bonnes pratiques à la fois au niveau européen, mais également au niveau international, sur la cyber-résilience et le risque informatique, mais également prendre en compte ce qui existait déjà au niveau des directives qui touche les institutions financières et qui était peut-être de façon implicite ou explicite déjà présent dans ces directives sur le risque informatique. Et tout ça, finalement, combiné, va permettre d'avoir un cadre unique et commun en matière de résilience opérationnelle numérique. Donc, il va se décliner dans un premier temps avec le règlement, puis les textes de niveau 2, donc les RTS et les ITS, et enfin les orientations. Et donc récemment, on a appris qu'effectivement, il y avait 13 mandats qui vont être confiés aux autorités de supervision européennes pour décliner de façon opérationnelle comment ce texte devra être mis en application. Point important également, on parle de règlement DORA, mais il y a également une directive DORA qui va permettre de mettre en cohérence les directives qui existaient déjà jusqu'à présent et que vous voyez mentionnées sur le slide. On a essayé de reprendre les principales qui concernent soit la banque, soit les compagnies d'assurance, et finalement qui vont se substituer. Et donc DORA va être le règlement chapeau sur l'ensemble de ces exigences réglementaires. Si je prends un exemple, DSP2, donc la directive sur les services de paiement, dans le cadre de cette directive, il était indiqué, demandé en tout cas, un reporting sur les incidents opérationnels et les incidents de sécurité. Donc maintenant, DORA va se substituer à cette exigence. Et donc c'est dans le cadre de DORA qu'on devra produire ce reporting des incidents et de sécurité. Donc, je pense que par rapport à l'ensemble de ces exigences réglementaires, bien sûr, les institutions financières ne partent pas de la feuille blanche. Un certain nombre d'exigences autour de DORA, que ce soit sur la cybersécurité, sur la continuité d'activité, sur la gestion des tiers, et là, je laisserai la CPR présenter effectivement le cadre général de DORA. Il existe déjà des choses au niveau des compagnies d'assurance et des banques. Le véritable enjeu, ça va être peut-être d'enrichir et de préciser de façon coordonnée l'ensemble de ces exigences, avec un vrai enjeu en matière de renforcement de la gouvernance et d'implication du top management au niveau de DORA. Donc DORA, finalement, ça sera un référentiel unique sur l'ensemble de ces exigences liées aux technologies de l'information et de la communication. D'une certaine façon, on espère que ça permettra de simplifier la mise en conformité et en même temps de développer une culture de la résilience opérationnelle numérique.
Merci beaucoup, Karine, pour cet éclairage. Alors, tu l'as dit, hein, l'un des principes, et je pense qu'on va en parler tout de suite, de DORA, c'est d'encourager la simplification et la convergence des textes. Sur cette thématique, et pour vous laisser, je dirais, la parole de façon plus précise, je vous propose maintenant d'avoir la vision de la CPR. Jean-Baptiste, Aziza, je vous laisse la main sur le sujet si vous voulez bien.
Merci beaucoup. Donc, bonjour à tous. Donc voilà, j'attends les éléments techniques. Merci. Donc nous allons vous présenter un peu sous la forme d'un dialogue à la fois le contenu de DORA, les principaux points d'attention sur lesquels je pense que les acteurs des secteurs financiers devront progresser et comment est-ce que la mise en œuvre de DORA pourra se préparer à la fois du côté du superviseur mais aussi du côté du secteur. Alors, le contenu de DORA, vous avez commencé à l'esquisser. Je pense que nous allons peut-être refaire un petit cadrage initial. DORA traite du risque cyber, donc de la sécurité des systèmes d'information, quand bien même il y a parfois un léger flottement dans le vocabulaire avec des références au risque informatique, ICT en anglais. Mais l'esprit est vraiment le risque cyber, puisque DORA a vocation à remplacer la directive NIS pour le secteur financier. Et cette approche est une approche donc, qui s'accompagne de ce tournant du risque opérationnel vers la résilience opérationnelle, c'est-à-dire une approche où le superviseur ne regarde pas tant le capital que la capacité de faire face à des événements et la proportionnalité des mesures d'accompagnement face au risque. DORA couvre donc les entités financières, qui est une catégorie nouvelle que nous détaillerons tout à l'heure, et qui inclut d'une part un certain nombre de secteurs qui sont cités dans Nice, comme le secteur de la banque ou des infrastructures de marché financier, et aussi des secteurs qui ne sont pas cités dans Nice, comme les assurances. Mais il s'appliquera de la même manière à l'ensemble de ce nouveau concept. Et pour ceux qui sont cités dans Nice, c'est DORA qui remplacera Nice dans la mise en œuvre. Au final, il s'agira d'apporter des éléments sur la gestion du risque, sur l'identification et le reporting des incidents, sur la manière de mener des tests, sur le risque de tiers, c'est-à-dire un panorama global de ces questions de risque cyber. Donc le périmètre qui est l'un des points le plus originaux de DORA, puisque peut-être de l'anti-blanchiment, on a cette même perspective transversale à travers le secteur financier, mais nulle part il est aussi très complet que dans le cas de DORA. On a d'une part le grand classique, un établissement de crédit, entreprise d'investissement, établissement de paiement, entreprise de monnaie électronique, les différents types d'infrastructures de marché, les organismes d'assurance. Mais DORA va aussi rechercher un certain nombre d'entreprises qui sont plus rarement mêlées à ce cœur de métier financier. Les intermédiaires d'assurance, les services de communication de données financières, en clair Bloomberg, les agences de notation sont également soumises à DORA du fait de leur activité, au même titre que les banques ou les assurances. Alors, il y a eu également des débats politiques jusqu'à la dernière minute qui expliquent la présence de clauses de revue pour deux types d'acteurs. D'une part, les acteurs liés au paiement qui aujourd'hui n'ont pas d'agrément dans le cadre de la DSP2, qui sont donc les systèmes de paiement, avec derrière à la fois notamment les gestionnaires de systèmes de cartes et les activités de traitement des paiements, donc notamment certains prestataires sous-jacents aujourd'hui à l'innovation dans le domaine bancaire et des fintechs. Pour ceci, il y a une clause de revue extrêmement courte, de manière à ce que cela puisse être discuté dans le cadre de la revue de DSP2 et donc de la future DSP3. Par ailleurs, donc les commissaires aux comptes ne sont pas inclus dans DORA pour l'instant, mais il y a une clause de revue à 3 ans. Nous verrons si le champ s'élargira aux organisateurs de cette conférence. Par ailleurs, donc du côté des prestataires, on a une définition qui est extrêmement large des prestataires envisagés. Il s'agit de tous les prestataires IT au sens large, donc y compris les éléments matériels logiciels et bien sûr ceux qu'on attendait comme les services nuagiques. Et pour illustrer, je dirais, ce caractère englobant de la définition des prestataires, la seule exclusion mentionnée dans le règlement, ce sont les services de téléphonie analogique classique. En revanche, bien sûr, voix sur IP, on est vraiment dans le cadre de DORA.
Pour ma part, je vais vous présenter un panorama en fait des principales exigences de DORA. Déjà, donc, l'ambition de ce texte est de couvrir les règles en matière de résilience opérationnelle numérique qui portent sur l'ensemble des acteurs qui viennent de vous être présentés, donc un périmètre assez large, donc première innovation de ce texte-là. Et ce texte est articulé sous forme de piliers, de chapitres que vous retrouverez dans le texte, qui couvrent un certain nombre d'exigences. Donc on décrit dans ce schéma 4 piliers, qui sont les 4 piliers de DORA. Premier pilier qui porte sur la gestion du risque informatique, qui établit que les institutions financières doivent établir un cadre de gestion des risques en matière d'informatique et qui implique une implication de la gouvernance de manière accrue par rapport à d'autres exigences préalables. Le deuxième pilier porte sur les incidents informatiques. Et si on part du général au particulier, il s'agit de mettre en place un cadre de gestion des incidents au sein des institutions financières. Et DORA introduit un reporting des incidents majeurs au niveau des superviseurs. Donc le troisième pilier porte sur les tests de résilience informatique opérationnelle. Également, il s'agit d'une exigence générale en matière de tests pour les institutions financières. Et il y a un focus particulier sur les tests avancés qui va porter sur les institutions financières les plus importantes et on vous expliquera pourquoi. Et le dernier pilier qui constitue d'une part une innovation et d'autre part une réaffirmation de certains principes porte premièrement donc sur les obligations qui pèsent sur les institutions financières et deuxièmement sur la surveillance et non pas la supervision parce que chaque mot a un sens, la surveillance de ce qu'on appellera les prestataires dits critiques. Donc on aura l'occasion d'approfondir un petit peu ces notions-là. pour, avant de rentrer dans justement ces quatre piliers-là, il convient de dire que DORA répond en fait à un long processus de négociation. Effectivement, ça a été mentionné en introduction, depuis le plan FinTech de la Commission depuis 2018. Donc, effectivement, on arrive à un aboutissement d'un texte qui, et on est très content, qui va commencer à rentrer en application dans 2 ans, mais qui va rentrer en commencer en application. Et si Jean-Baptiste peut-être dire 2 mots sur le calendrier, parce que c'est quand même ce qui nous intéresse également, et d'avoir cette visibilité est importante.
Ouais, donc vous avez mentionné le passage au Parlement européen, donc ce sera suivi par un passage normalement sans discussion au Conseil, donc si de bonne mémoire c'est le 6 décembre. Après il y a toujours besoin de quelques temps pour revoir les traductions dans l'ensemble des langues officielles, ce qui nous place probablement fin février, début mars, qui donc sera la date à partir duquel les 2 ans pour l'entrée en application courra. Donc on est vraiment sur fin premier trimestre publication et fin premier trimestre 2025 mise en application.
Donc les apports d'Odora, c'est un propos introductif, voire un conclusif également. Pourquoi on est arrivé à avoir ce règlement ? Pour 2 raisons. La première, et ça a été également évoqué, c'est ce besoin d'harmonisation des règles, car la gestion du risque informatique, en tout cas en matière de cybersécurité, ce n'était pas un sujet nouveau. Il existait déjà des réglementations sectorielles, mais de niveaux différents, c'est-à-dire qu'il y avait pour certaines un caractère contraignant, d'autres c'était des normes standardisés, d'autres non contraignants, et donc ça a entraîné des chevauchements, également une réglementation qui était d'interprétation selon les États dans lesquels vous vous trouvez, et des incohérences et des coûts de conformité assez conséquents. Donc la Commission européenne a pris la mesure de ces écueils et a établi un texte avec des règles harmonisées. C'est aussi la seconde innovation de ce texte-là, au-delà du périmètre, c'est d'avoir des règles harmonisées pour l'ensemble des institutions financières au niveau européen. Donc, ça répond à ce besoin-là. Et puis, ça répond à d'autres besoins, mais plus particulièrement un autre besoin, qui est celui de constater, au-delà des augmentations, des cyberattaques, etc., une pratique généralisée, qui est une augmentation des externalisations à l'égard des prestataires tiers. Et il a pu être constaté un déséquilibre, parfois, dans la relation contractuelle, à l'égard de certains prestataires, une interconnexion, une augmentation de certaines dépendances et évidemment faire peser sur l'ensemble des institutions financières la responsabilité d'avoir à établir de relations équilibrées était peut-être un peu trop leur demander, et il a fallu quand même trouver un moyen de répondre à ce besoin-là qui est par l'établissement d'un cadre spécifique pour la supervision des tiers prestataires. Donc effectivement, ça répond à ce deuxième besoin. Et que ce soit pour les institutions financières ou les superviseurs, effectivement, ça apporte un cadre sécurisant, cadre juridique sécurisant, puisqu'on a un règlement qui a la même force dans l'ensemble des États de l'Union européenne et qui n'est pas source d'interprétation. Et puis un texte qui porte sur la résilience opérationnelle, qui est selon une vision qualitative et non plus une vision, comme ça a été dit, restreinte au risque opérationnel et à une vision fonds propres. Donc ça, c'est effectivement les 2 apports de DORA. Les principaux points d'attention, on a essayé de décliner ces points d'attention par piliers pour pouvoir mettre en avance ce qu'il fallait retenir de ce texte. On commence par le premier pilier qui porte sur les règles de gouvernance et de gestion des risques. Donc c'est pas, comme précisé, ça DORA conforte les règles de gouvernance et de gestion des risques en vigueur. Donc ce n'est pas une nouveauté que les institutions financières doivent régir ce risque-là. Comme ça a été dit, bien évidemment, il y avait des orientations sectorielles qui existaient, que ce soit au niveau du secteur des banques, des assurances ou des marchés financiers, en matière de gouvernance des technologies de l'information, de la communication et de sécurité de l'information. Donc, les organismes ont déjà appréhendé ces règles-là, mais la nouveauté apportée par DORA, c'est effectivement le fait qu'on a des règles uniformisées, donc on a des règles qui sont tirées vers le haut pour l'ensemble des institutions financières, et ça ça, c'est effectivement un progrès pour... sur ce texte-là. Ce pilier gouvernance, j'ai presque envie de dire que c'est le principal pilier, puisque du respect de ce pilier-là découle le respect des autres piliers tels qu'ils vous seront présentés. Donc, c'est le pilier socle vis-à-vis de DORA. Ce qui convient aussi de préciser, c'est que ce texte DORA est aussi d'inspiration d'autres standards internationaux, hein, au-delà de la réglementation, notamment le cadre de sécurité NIST américain, qui a établi notamment 5 fonctions essentielles pour constituer un cadre de cybersécurité robuste et efficace, qui sont présentées là, donc identifier, prévenir, protéger, détecter, répondre et rétablir. Et donc DORA reprend en fait ces fonctions essentielles en matière de résilience opérationnelle, les articles 7 à 13, vous pourrez les consulter également. Donc si effectivement l'identification des actifs informationnels, des fonctions opérationnelles et la prévention, la protection des actifs et la détection des activités anormales était quelque chose qui était quand même assez communément réalisé par les entreprises, avec des degrés de maturité évidemment différents. La réponse et le rétablissement fait partie de l'attention qui a été portée par la Commission européenne, puisqu'il s'agit bien d'anticiper quelle sera la réponse à apporter en cas de dysfonctionnement grave et d'anticiper et d'identifier les canaux pour pouvoir continuer à fonctionner, et ça de manière au plus haut niveau des institutions financières. Donc c'est vraiment une application de la gouvernance, et c'est ramener aussi le sujet de la gestion opérationnelle numérique hors des directions informatiques pour que les acteurs de la gouvernance puissent s'en saisir et puissent établir des stratégies qui permettent d'anticiper ce type d'événement. Et donc, effectivement, c'est la nouvelle approche qui est portée par DORA, à savoir viser la résilience opérationnelle et non la seule maîtrise du risque opérationnel.
Donc parmi les évolutions, il y a celle du reporting avec effectivement l'intégration du reporting paiement. Donc c'est une exigence qui est assez large puisqu'elle s'appliquera à l'ensemble des entités financières dans le champ de DORA, sauf aux micro-entreprises. Il y a plusieurs volets. Le volet essentiel, c'est donc une déclaration obligatoire des principaux incidents liés au TIC. Donc il y aura un seuil à respecter qui sera fixé par les textes de niveau 2, même si on s'attend à ce que les entités identifient et enregistrent tous les incidents. En outre, il y aura donc la possibilité de partager avec les superviseurs les menaces importantes. L'idée étant que cette information-là a une utilité de place et pas uniquement une utilité pour l'établissement, et peut aider par le dialogue ou le partage de l'info l'amélioration de la résilience de l'ensemble du secteur financier. Il y a une intégration de ces reportings entre agences européennes et autorités nationales, donc qui aura vocation à simplifier les tuyaux. Et la possibilité également d'intégrer les reportings nationaux, donc notamment pour les établissements classés OIV. Ça dépendra des choix du régulateur français, mais DORA est aménagé pour permettre ce genre de solution. Et un élément important aussi, c'est la possibilité d'échanger des informations entre institutions financières volontaires.
Oui, en fait, on a voulu introduire à ce moment-là, même si on a parlé des reporting des incidents, donc c'est quelque chose de normalisé qui va être à destination des superviseurs, mais DORA aussi incite, et non pas exige des institutions financières, mais les incite fortement à échanger sur les cybermenaces et à se réunir pour pouvoir échanger sur ce qu'ils ont pu constater à titre préventif et afin d'appréhender les menaces qui pèsent sur le secteur financier. C'est quelque part, ce n'est pas une nouveauté, parce qu'on sait que les acteurs de la place échangent régulièrement entre eux sur ces menaces. Mais c'est une manière aussi de créer un cadre sécurisé, puisqu'on parle de cadre de confiance entre institutions financières. C'est laissé à la main des institutions financières de créer des endroits où il y aura des échanges avec une certaine confidentialité des données, parce qu'on sait très bien qu'il s'agit de données sensibles. Mais c'est une manière aussi de dire organisez-vous, créez un cadre écrit qui peut faire intervenir à la fois les institutions financières également, mais des prestataires tiers, également les autorités publiques, à charge pour les institutions financières de remonter, de notifier aux autorités les accords d'échange mis en place. Donc ça, c'est aussi une évolution qui est bienvenue dans le cadre de ce texte-là, même si ce n'est pas quelque chose d'impératif. Un autre des piliers de DORA porte sur les tests de résilience opérationnelle. Comme ça a été évoqué donc, en introduction, les institutions financières doivent établir un programme de tests de résilience opérationnelle. Donc les tests, à quoi ça sert? Ça sert principalement, et c'est un outil indispensable pour tester la réponse aux incidents et pour identifier quelles seraient les lacunes et les défaillances en cas de survenance d'un incident. Donc c'est la matérialisation d'exercices en matière d'anticipation de ces dysfonctionnements. Donc ça a vraiment un intérêt très opérationnel pour pouvoir se préparer. Donc il y a deux types de tests qui sont mentionnés dans DORA, à la fois des tests de base, c'est basique, donc de certains scénarios qui peuvent être mis en place, qui sont à destination de l'ensemble des institutions financières. Donc tout le monde doit réaliser des tests basiques, tels que c'est précisé dans DORA. Mais il y a aussi ce qu'on appelle des tests avancés par la menace, les fameux TLPT, qui sont des tests qui sont à destination d'une partie des institutions financières, c'est-à-dire que ce sera les plus importantes qui seront impactées par ces tests-là. Et c'est les entreprises financières les plus importantes, c'est celles qui ont peut-être des processus ou en tout cas qui ont un potentiel systémique qui serait le plus identifié au niveau national. Et donc ces acteurs, eux, devront réaliser des tests concrètement tous les 3 ans où ils vont tester leurs fonctions critiques et selon des modalités bien établies. Donc il y a au niveau européen, il y a déjà un cadre qui existe, même s'il est, qui a été mis en œuvre par la BCE à destination des banques, mais de manière volontaire, qui s'appelle le cadre Tiber-EU. Donc effectivement, ce cadre-là est un cadre de référence. Mais là, effectivement, ce qu'on va créer, c'est un cadre bien défini avec une autorité nationale qui va désigner des institutions financières qui doivent établir ces tests avancés sur des systèmes de production. Donc on est vraiment des tests en réel au sein des institutions financières via des testeurs internes ou externes sous conditions. Donc ça aussi, c'est une avancée de DORA, puisque le fait d'avoir des tests, c'est aussi reconnaître que au niveau européen, ça entraîne une validité des tests réalisés dans le pays X et le pays Y. Donc pour les acteurs qui sont transfrontaliers, ils n'auront pas à refaire ces tests-là, puisqu'il y aura déjà une validation. Donc cette reconnaissance-là est importante. Et puis c'est aussi un coût de conformité qui n'est pas négligeable, puisque effectivement ces tests-là sont quand même assez coûteux et ils révèlent aussi des résultats assez probants en termes d'évolution de l'organisation. Donc voilà, c'est effectivement le point principal sur ces fameux tests de résilience opérationnelle.
Donc, du point de vue de la gestion du risque de tiers, DORA ne change pas les principes qui existent de manière traditionnelle dans le contrôle interne. Donc on retrouve notamment l'idée que l'entité financière reste responsable du risque et vous retrouvez également donc, tous les éléments qu'on a recopiés sagement sur la diapositive. Ce qui est important de garder en tête, c'est que DORA dans le domaine va premièrement un peu structurer, réaffirmer, clarifier la relation contractuelle. Puisque on est au courant des difficultés pour les entités financières, notamment les plus petites, de ne pas être prises dans des sortes de contrats d'adhésion par les prestataires, notamment les plus importants. Et dans cette direction-là, on force les contrats à avoir une clarté, d'avoir des clauses de réversibilité. On pousse également, je dirais, plutôt on ouvre des portes. On ouvre des portes à la standardisation de certaines clauses contractuelles. Donc il n'y a pas de standardisation d'Andorra, mais c'est un peu comme sur le modèle des pools de partage des menaces. On rend possible, si les superviseurs ou la place veulent avancer, de progresser dans cette direction-là. On a également, je dirais, une modernisation de l'approche, puisque je dirais, de manière générale, on parle de risque de tiers et non d'externalisation, de manière à capturer, par exemple, les services qui seraient, je dirais, d'origine développés par des prestataires pour l'entité financière. On a également la réaffirmation de l'idée que les prestataires ne font pas écran au contrôle du superviseur, c'est-à-dire aussi bien sur les questions de gouvernance, sur les questions de test, sur les questions de reporting. À plusieurs reprises dans Dora, vous avez une clause qui rappelle bien que les prestataires doivent fournir les informations aux assujettis de manière à ce qu'ils puissent répondre aux exigences de gouvernance qui pèsent sur eux. Dans le domaine du risque de tiers, l'élément le plus novateur, c'est cette surveillance des prestataires critiques. Donc, en parlant de surveillance et pas de supervision, dans le cadre européen, ça évoque la surveillance des infrastructures de marché ou des opérateurs de paiement. Mais ce que fait Dora, ce n'est pas juste répliquer les bonnes pratiques de l'eurosystème. Vous retrouvez quelques éléments qui peuvent se rapprocher de ce qui, jusqu'à présent, n'existait qu'en supervision. Donc, des équipes mixtes dirigées par l'autorité européenne de supervision, la plus indiquée face à une activité d'un prestataire, mèneront un contrôle sur pièce et sur place de ce prestataire. Ces prestataires seront désignés sur la base de critères qui sont esquissés au niveau 1 et qui seront détaillés au niveau 2. Cette surveillance, sera assez multiple dans ses outils ce qui matérialise l'existence, je dirais, d'une volonté de mettre en œuvre quelque chose de sérieux et qu'il existe des astreintes pour non-coopération. De manière plus symbolique, parce que la plupart des prestataires, je dirais que la fameuse bulle de Bruxelles avait en tête, ont déjà une filiale en Europe, mais aussi un prestataire désigné critique, s'il n'en a pas une déjà, devra ouvrir une filiale en Europe, même si ce n'est pas forcément elle qui devra prester le service. Mais il faudra au moins avoir cette boîte aux lettres européenne de manière à être plus facilement contrôlable. Donc, les conséquences de cette surveillance, c'est d'une part un certain nombre d'obligations formelles pour les prestataires en termes de partage d'informations et de coopération, mais c'est également un droit de suite pour les superviseurs. C'est-à-dire que cette surveillance ne va pas se traduire par la possibilité, par exemple, d'enjoindre le prestataire à modifier ses pratiques, mais si les pratiques du prestataire critique sont insuffisantes par rapport aux standards attendus par cette communauté des régulateurs financiers qui viendront les surveiller, les clients de ces prestataires pourraient se voir, eux, enjoindre de prendre des mesures d'adaptation pour faire face aux lacunes de ces prestataires. Ce qui, évidemment, est un désavantage concurrentiel non négligeable pour ces prestataires. Et on espère donc, à travers l'existence de cette menace, contribuer à une évolution globale de la place, dans un sens à la fois qui va vers une meilleure continuité opérationnelle, mais aussi vers une meilleure prise en compte des nécessités propres au secteur financier, en termes de réactivité, en termes de transparence, et qui sont nécessaires pour que des relations contractuelles saines existent entre les entités financières et leurs prestataires critiques.
Alors, juste pour mini-conclusion sur Dora, avant d'aborder encore d'autres sujets. Donc, en fait, effectivement, Dora promeut une démarche constructive à plusieurs égards. Ça a déjà été dit, l'objectif juridique plus qu'opérationnel. Donc, effectivement, cette harmonisation des normes, qui n'est pas une révolution, mais qui est quand même une avancée significative pour l'ensemble du secteur. Ça reflète aussi la priorité croissante du risque cyber, bon, qui est une conséquence de l'évolution du business, hein, parce que là, effectivement, on a digitalisation accrue qui augmente la surface d'attaque des institutions financières, et en face des cyberattaquants qui se professionnalisent aussi et qui attaquent massivement certains secteurs. Donc effectivement, ça c'est une réalité, et c'est une réalité qui a été prise en compte par ce texte. C'est une préoccupation aussi des institutions financières qui sont elles-mêmes conscientes de ces risques, que dans tous les baromètres des risques, on voit effectivement que le risque cyber est très bien placé. Dans l'évaluation des risques qui est produit par la Banque de France également, ça fait partie des 5 premiers risques identifiés. Donc effectivement, DORA permet de répondre par des outils de gouvernance dédiés et des reportings particuliers, comme on a pu le voir, qui remontent au superviseur et qui remonteront également au niveau européen, donc qui permet de sécuriser, entre guillemets, ces aspects-là. Et effectivement, le dernier point, c'est une relation de confiance avec les autorités, parce qu'on a vu qu'au-delà de la remontée des incidents de manière obligatoire, il y a aussi des actions volontaires, notamment sur le reporting des menaces. Donc effectivement, on attend aussi des institutions financières une remontée, donc selon un cadre bien défini, mais en tout cas une remontée de leur part, des clauses standards pour pouvoir rééquilibrer les accords contractuels, et effectivement la prise en compte de ce risque de tiers qui correspond aussi à l'évolution du business tel qu'on le conçoit sur le marché. Donc ces trois points pour nous sont une évolution importante et qui est prise en compte par DORA.
Et je vais laisser la parole. Qu'allons-nous faire de part et d'autre de la scène et des caméras au cours des 2 prochaines années ? Alors, premier élément, c'est de préparer les textes de niveau 2. Donc, ces textes concernent l'ensemble des piliers de DORA. Et le travail sera conjoint à la fois banque, assurance, marché dans les 3 domaines. Des groupes de travail se réunissent à partir de la semaine prochaine. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais sachez qu'en fait, il y aura 2 fournées de textes essentiellement, à quelques exceptions près, et que du côté de la place, les premières consultations seront attendues vers mi-2023, donc notamment sur le cadre de surveillance, et qu'il y aura une deuxième, le cadre de gestion des risques, excusez-moi, et qu'il y aura une deuxième série qui interviendra probablement début 2024, donc en consultation, qui sera sur les autres thèmes, notamment une partie de la gestion du risque de tiers, de la surveillance des tiers critiques. Et donc à la suite de ces consultations, comme d'habitude, il y aura après l'adoption par les autorités européennes de supervision, puis un délai d'adoption par la Commission. Dans ce cadre-là également, nous réfléchirons aux recommandations de l'ESRB sur la gestion des incidents qui peuvent avoir un effet systémique. Ça fait partie de ce que nous avons en tête. Du côté de la place, je dirais on peut faire une différence entre les entités financières qui ont déjà avancé sur cette question du risque opérationnel grâce aux orientations en vigueur. Pour elles, je dirais il y a assez peu de changements dans la substance, éventuellement un changement de la philosophie, suivant à quel point le risque a été vécu à travers ce prisme de la résilience, à quel point il a été également intégré jusqu'au niveau des organes de gouvernance. Et pour les autres entités financières, donc on a également peut-être un gain un peu plus important en termes de mise en œuvre de processus internes, mais néanmoins, les règles déjà existantes sont déjà de bonnes sources d'inspiration. Et avant même la publication des RTS, regardez les notices qu'avait publiées la CPR dans la Banque et l'Assurance, donne une idée de la direction dans laquelle aller. C'est pourquoi, dans l'attente des textes d'application, renforcer la gouvernance dans le cadre actuel est de manière très claire la meilleure préparation possible à DORA, telle qu'il sera en vigueur en 2025.
Et donc, dernier slide pour nous. Donc, en attendant Dora, qu'est-ce qu'on va faire? Non, effectivement, en termes de supervision, nos actions de supervision se poursuivent, c'est-à-dire que le risque cyber, ça fait plus d'une dizaine d'années, qui fait partie des priorités de contrôle de la CPR. Donc, on a déjà œuvré dans ce sens-là. Comme ça vient d'être évoqué, effectivement, on a... de par notre politique de transparence de la CPR, on a déjà publié des documents qui sont une source d'information assez significative, notamment un document de réflexion sur le risque informatique en 2019, qui est un petit peu notre document sur notre méthodologie d'investigation en matière de risque IT, donc qui donne des clés pour comprendre de quelle manière interpréter les règles. Et également, la publication des deux notices suite à la mise en conformité des orientations EBA et IOPA en matière de risque informatique. Si effectivement la notice ACPR en matière assurance est une reprise des orientations IOPA, celle relative aux orientations banques va un peu plus loin puisqu'elle apporte des éléments d'explication sur l'arrêté de contrôle interne qui a évolué en 2021 et apporte aussi des éléments pédagogiques et comment on doit interpréter les règles. Donc je serais trop vous encourager à la lire avec attention, ça vous donnera des réponses sur les attendus du superviseur. Donc ça, c'est un élément important. Ensuite, on a aussi des enquêtes qui sont réalisées auprès des acteurs supervisés. Donc on peut avoir notamment, soit par le SSM, soit au niveau côté assurance, il est réalisé tous les deux ans une enquête sur la gouvernance des technologies de l'information et de la communication et sur la qualité des données. Et la CPR réalise des restitutions au marché. Donc c'est aussi un bon moyen pour progresser et puis voir quels sont les points d'attention qu'on a pu constater sur l'ensemble d'un secteur bien défini. Au-delà de ça, évidemment, notre métier, c'est aussi donc de la supervision, de contrôler les établissements de manière individuelle. Donc, les établissements qui seront contrôlés sur cette thématique-là recevront des rapports qui mettront en avant les points de manquement ou dysfonctionnement, etc. Donc, c'est aussi une manière d'évoluer et de progresser. Et je voulais terminer, avant de conclure, sur aussi un groupe de place robustesse qui existe et qui est très important, puisque c'est un groupe de place qui s'adresse, qui réunit des autorités Banque de France, ACPR, AMF, l'ANSSI, etc., et qui réunit notamment les plus grands établissements de crédit de la place et qui réalise régulièrement des exercices de simulation de crise. C'est l'objectif de ce groupe de place, robustesse, pour identifier les dysfonctionnements majeurs et préparer le marché à une réponse coordonnée. Effectivement, le but, ce n'est pas de découvrir la crise et de surréagir, c'est d'être préparé à la réponse qui va être apportée. Donc, ce n'est pas sur ce groupe de place d'exercice crise, elles peuvent être différents. Mais en tout cas, sur les deux derniers exercices qui ont été réalisés, en 2021 et en septembre 2022, ce n'est pas un hasard si la simulation de crise a porté sur des cyberattaques, en tout cas un axe supply chain qui a été mis en avant. Donc n'hésitez pas aussi à consulter ces exercices de place parce qu'ils sont générateurs d'enseignement pour l'ensemble de la place. Et si je dois résumer un petit peu tout ce qui a été présenté, effectivement, au-delà des textes réglementaires, au-delà de nos actions de supervision et aussi des échanges d'informations entre institutions financières, tout l'objectif de ce corpus, nouveau corpus réglementaire, c'est de préserver l'écosystème financier. Donc, ce n'est pas une question de conformité, c'est une question de cohérence des règles dans un objectif précis. Voilà.
Merci Aziza, merci Jean-Baptiste, c'était très complet, ça nous donne une bonne idée, je dirais bien sûr du cadre, mais au-delà du cadre, de la philosophie dont vous avez parlé, et puis aussi des perspectives, puisque vous avez évoqué les prochains mois, et on sait que vous serez occupé sur le sujet, donc merci beaucoup pour ça. Je vous propose maintenant de passer à la table ronde avec nos invités d'AXA et de LCH sans attendre. Alors, je vais me rapprocher de vous, si vous voulez bien. Voilà. Alors, on sait, enfin, on croit savoir que vous êtes en train de travailler sur le sujet. Donc, on a quelques questions. J'ai même, en fait, des questions à vous poser à toutes les deux, si vous voulez bien. Peut-être à commencer par vous, Céline. Quels sont, je dirais, aujourd'hui, les enjeux et les points d'attention liés à Dora, à la matière dont on vient de parler, pour un groupe comme AXA ?
Alors, AXA est un groupe très important, présent dans plusieurs pays, avec des produits très variés. Donc, bien sûr, les enjeux de Dora seront et sont déjà très importants. Comme vous l'avez dit, dans les dernières années, on a vu une accélération de la digitalisation de nos environnements. On a bien sûr un côté face à cette digitalisation, qui est le fait que ça a pu renforcer nos relations avec nos clients, nous permettre d'avoir de nouveaux services, de s'affranchir de barrières, de distances ou d'horaires avec nos clients. Mais par contre, bien sûr, on a le côté pile qui est un accroissement des risques de cybercriminalité, de résilience opérationnelle ou de dépendance à nos services providers, nos fournisseurs de services. Alors, notre organisation s'est adaptée ces dernières années à cet environnement. Nous avons vu aussi les textes nationaux et européens s'adapter à cet environnement, avec en effet des exigences déjà existantes dans pas mal de pays où nous opérons. Donc, on a eu un certain nombre d'initiatives internes, un certain nombre de demandes, je dirais, externes. Et une étape assez marquante a été les guidelines IBA ou IOPA, Cloud, ICT, qui nous ont permis vraiment de réfléchir, de préparer une analyse sur un certain nombre de thèmes qui sont vraiment repris dans Dora. Une grande force pour nous de Dora, c'est vraiment qu'elle suscite un alignement de ses exigences, un regroupement de ses exigences pour tous les participants, institutions financières et fournisseurs de services. Pour nous, c'est un véritable cauchemar, en fait, quand on a des exigences dans des pays qui divergent d'une manière notoire. Donc vraiment, nous comptons sur Dora pour avoir un langage commun, un calendrier aligné et puis une impulsion qui va être importante puisque obligatoire. Sur les points d'attention maintenant, bien sûr, comme on en parlait, on attend avec impatience les RTS qui vont nous donner un peu plus de détails sur cette implémentation et ses exigences. Nous aurons une visibilité à peu près un an avant l'implémentation de Dora. Dans un environnement technologique, c'est un temps court pour vraiment avoir en fait ces détails. Alors là, c'est un appel à mes voisins. On est tout à fait prêts à participer, réunion de travail, consultations, réunions formelles, informelles, pour vraiment participer à ces interprétations et avoir aussi une interprétation qui soit nourrie de notre expérience terrain. Le deuxième point d'attention, parce que nous sommes un groupe important, c'est le concept de proportionnalité. Dans l'esprit de Solva 2 et dans le cadre de nos opérations, on a toujours des cadres de supervision avec une utilisation d'un principe de proportionnalité. Par exemple, on ne va pas exactement mettre le même effort de ressources sur tous nos prestataires de services. Donc on a aujourd'hui des cadres de supervision avec nos fournisseurs, par exemple, qui s'organisent autour d'un arbre de décision en fonction des données, des connexions, de la profondeur de la relation que nous avons avec ces fournisseurs. Le cadre va potentiellement évoluer, se renforcer ou s'alléger. Donc ça, c'est un point qui est pour nous très important. On a un dernier point d'attention, c'est tout ce qui va être autour des reporting incidents. Alors, comme dans le cas de FSB, on voit qu'on a un foisonnement en fait de demandes de reporting d'incidents. Je pense que si on veut vraiment réaliser les réels objectifs de ces reporting incidents, c'est-à-dire une réaction rapide si on est dans le cas d'un événement systémique et ensuite une bonne compréhension a posteriori pour s'adapter aux menaces, il faut vraiment que ces reportings soient harmonisés. Voilà pour moi.
Caroline, même question. Enjeux, point d'attention pour vous, pour LCH. Vous pouvez nous en dire un mot?
Oui, tout à fait. Donc, en termes de contexte, donc, LCH, hein, Chambre de compensation, un partenaire des infrastructures de marché clés, hautement régulées, évidemment. On est une entité également de taille en termes de ressources mesurées, avec un objectif majeur qui est la résilience opérationnelle. Donc, dans ce cadre-là, évidemment, DORA est clé pour nous. On a déjà anticipé depuis le début d'année et puis de façon régulière avec nos superviseurs l'approche par rapport aux risques informatiques de façon très générale. Donc nous, au niveau des challenges, effectivement, on a le premier qui sera vraiment la partie renforcement de la gestion du risque informatique, qui va passer donc par le renforcement de la gouvernance au niveau des différentes lignes de défense, où à partir du profil de risque de la CCP, on déclinera de façon à partir des éléments stratégiques et comment décliner de façon opérationnelle le suivi et le monitoring de ce risque informatique. Il y aura également un besoin important donc, de s'accompagner d'outillage. Encore une fois, le fait que nous sommes une entité donc, aux ressources mesurées, si je puis dire, la capacité de pouvoir suivre de façon holistique notre gestion de risque informatique va devoir passer donc, par évidemment la partie approche du principe de proportionnalité d'une part, mais également de s'équiper d'outillage pour qu'on puisse être en mesure de suivre de façon périodique et approfondie, donc les différents types de risques, être capable de les monitorer, de les reporter, et cela au niveau donc, stratégique et managérial de LCH. C'est le premier. Le deuxième, c'est la gestion des tiers. Nous sommes hautement dépendants vis-à-vis donc, d'un certain nombre de tiers. Donc à ce niveau-là, le besoin clé, et ça c'est un sujet qu'on a vraiment démarré également avec nos superviseurs depuis plus de quelques mois maintenant, l'identification des différents types de tiers. DORA pour nous aussi est un moyen clé puisqu'on a des tiers qui, sur lesquels on a potentiellement, DORA va vraiment nous aider à être dans un cadre également homogène au travers des différents enjeux. Donc à ce niveau-là aussi, il va s'accompagner toute la partie gouvernance, équipement en interne et avec la capacité de définir les différents types de tiers et les classifier afin de pouvoir après, à partir du profil de risque, avoir une approche par les risques de nos différents tiers. Et le dernier reste aussi un des challenges, je dirais, c'est être notre capacité à suivre aussi le bon équilibre entre notre croissance métier et la gestion des risques au global. Donc, travailler avec nos différents lignes métiers sur la capacité à anticiper la croissance attendue, les différents projets de développement métier, tout en mettant en exergue en face l'approche par les risques également et être capable de mesurer et prendre des décisions stratégiques en fonction.
Merci. Alors, j'ai une autre question qui s'adresse aussi à vous deux. Et vous avez déjà en partie répondu, mais on sait que DORA, en fait, ça vient effectivement compléter des dispositifs, des éléments existants, des orientations. Donc, vous aviez déjà lancé un certain nombre d'initiatives, de projets dans vos organisations respectives. Hein. Et donc, ma question, c'est, comment est-ce que finalement aujourd'hui DORA s'inscrit par rapport à ce que je dirais à la roadmap que vous aviez déjà établie, à vos plans d'action, autres initiatives et projets en cours? Alors, je ne sais pas qui veut. Céline, si vous voulez.
Merci. Alors, c'est vrai que je pense que il y a beaucoup de bon sens dans DORA et beaucoup d'éléments qui s'inscrivent, je dirais, dans les fiches de poste de pas mal de nos managers. Donc, on a pas mal d'initiatives qui vont dans un sens assez commun. J'en citerai trois. Sur la cybercriminalité, qui est vraiment, je pense, le cœur de l'objectif de DORA. Depuis quelques années, AXA a une stratégie sécurité ambitieuse. On a eu un certain nombre de vagues d'investissements. Dans la dernière vague d'investissements, on a défini des familles de contrôles cruciaux pour renforcer la protection de nos opérations. Et nous avons récemment updaté cette stratégie face à l'accélération de la digitalisation, face aux menaces changeantes de l'organisation et pour assurer une meilleure couverture, je dirais, de nos surfaces d'attaque. Et là, je pense que par rapport à Dora, c'est vraiment l'opportunité de se, je dirais un peu d'une manière manichéenne, de se liguer contre les méchants. Et donc, tout ce qui est du partage sur ces menaces, pour moi, est vraiment un bienfait. Sur la relation avec les fournisseurs, j'en parlais depuis 2018. Nous avons lancé une initiative assez importante avec notre direction des achats et nos équipes opérationnelles pour renforcer le cadre de supervision de nos tiers. Donc nous l'appelons Vendor Risk Framework. Donc ce cadre rappelle des éléments de bon sens à la mise en place d'une relation, le suivi d'une relation et l'arrêt de relation avec ses fournisseurs. Il pousse aussi le fait que nos organes de contrôle interne testent d'une manière régulière l'existence et l'efficacité de ces contrôles. Donc, dans le cadre aussi de ces éléments-là, on a updaté ce cadre du retour de nos entités opérationnelles et des guidelines EBA, EBA, EIOPA, et bien sûr de discussions avec nos superviseurs, des revues sur place dans ces contextes. Et nous continuerons bien sûr de l'updater en fonction des demandes. Maintenant, je pense que vraiment, ça a permis de réentrer dans une discussion assez différente avec nos fournisseurs de services, grands ou petits, donc avec des niveaux, je dirais, d'attention aussi assez différents. Ces fournisseurs sont très conscients des demandes accrues par rapport à ces sujets de leurs entités clientes. Et Dora ne se donnera qu'une plus grande légitimité à nos demandes. Et on le sait, pour que la résilience soit vraiment effective, et vraiment qu'elle se fasse des deux côtés de la relation et que l'intégralité de la chaîne de valeur soit renforcée. Dernier élément, je dirais, d'initiative, et là j'en reviens un petit peu à la fiche de poste de nos directeurs informatiques. Je pense que beaucoup d'éléments en termes de gouvernance informatique, de gouvernance des risques informatiques ont déjà été mis en place. Tous les sujets de bonne connaissance de parc informatique, de gestion d'obsolescence, etc., sont présents dans pas mal de nos comités des risques ou comité de direction. Maintenant, loin de moi l'idée de vous faire croire qu'on est parfait, parce que c'est pas du tout le cas. On a du travail, j'ai du travail, nos équipes opérationnelles encore plus. Je pense que par contre, sans ouvrir le capot, on a des points d'attention qui sont assez communs avec nos pairs. Je pense que les sujets de réversibilité sont un sujet important, les sujets de reporting incident aussi, de gestion d'obsolescence et de vraies connaissances de nos environnements digitaux sont partagées, je dirais, sur la place et ont des zones, je dirais, d'amélioration.
Merci beaucoup. Caroline, sur cette question, je vous laisse compléter de votre côté,
oui,
sur les autres
fait.
Projets ou initiatives que vous pouvez avoir. Oui.
Très bien, merci. Effectivement, donc LCH, de par son rôle systémique, nous avons déjà un framework de risque très implémenté au niveau de la structure LCH, hein, sur les différents types de risques qu'on a pu discuter. Donc aujourd'hui, je dirais qu'un des sujets sur lequel nous avions déjà démarré est vraiment la gestion des tiers. Donc, qui était pour nous un réel sujet avec les différents arrêtés ici, effectivement, donc, que la régulation a pu déjà mettre en place, d'avoir la capacité d'avoir un registre des tiers et la capacité de l'avoir la classification et de les gérer. C'était un sujet sur lequel nous avions déjà démarré. Donc je pense que le DORA aujourd'hui, pour nous, c'est un projet donc, sur lequel évidemment nous avons démarré en tout début d'année pour anticiper en termes de gap à parcourir sur et anticiper les principaux challenges que j'ai pu mentionner juste avant. Je pense qu'il y a également toute une partie d'éducation, de change management qui va aller au travers de la structure et même si notre cœur de métier reste la partie résilience opérationnelle, associer également nos métiers dans ce challenge-là qui va être également important au niveau du renforcement par rapport aux différentes lignes de défense, en particulier donc la première de façon holistique. Donc ça, c'est clairement une approche que nous avons à ce niveau. Et ensuite, être capable de travailler travailler également avec le groupe, puisque nous appartenons aussi au groupe London Stock Exchange, donc qui a également d'autres challenges par rapport à d'autres régulations sur lesquelles il est important pour nous de pouvoir anticiper l'adéquation avec, avec le DORA à ce niveau-là.
Merci beaucoup. Alors, on a parlé un peu là de mise en place opérationnelle. Moi, j'ai une question sur la culture de résilience opérationnelle, parce que c'est un sujet en fait qui est un peu sous-jacent. On a parlé de philosophie, de culture, et je dirais vraiment, c'est un peu le fil conducteur de ce dont on parle aujourd'hui. Est-ce que, par exemple, au niveau d'AXA, vous avez envisagé de mettre en place, je dirais, des actions pour favoriser une culture sur la résilience opérationnelle à travers le groupe notamment?
Alors, je pense que déjà, la culture de la résilience opérationnelle est plutôt présente chez AXA. Notre soutien est important dans la vie de nos clients et on doit être au rendez-vous à des moments critiques. Donc, pour des raisons de métier évidentes, par le fait de notre désignation aussi comme assureur systémique, au fil des années, AXA s'est doté d'une organisation de résilience opérationnelle. Donc, cette organisation de résilience opérationnelle, elle est axée autour, bien sûr, d'une analyse des ressources critiques, d'une gouvernance de crise et de plans de continuité établis et testés régulièrement. Donc, honnêtement, dans les dernières années, ça a été plus que de l'exercice de crise. On a activé cette gouvernance à différents niveaux de l'organisation et sincèrement, beaucoup trop à mon goût. Pour des raisons de mouvements sociaux à Paris ou dans quelques capitales, dans le cadre de la pandémie, pour la guerre en Ukraine, ça a été vraiment quelque chose qui a été exercé très, très souvent. Alors, on a des administrateurs aussi et des dirigeants qui sont sensibles à ces sujets, des administrateurs qui nous challengent assez régulièrement sur ces aspects de résilience opérationnelle. Donc, je dirais qu'au niveau du management et au niveau de nos dirigeants, c'est assez présent. Dans le cadre vraiment, je dirais, de la formation de nos employés, nous avons développé des modules de formation digitaux obligatoires sur les sujets de sécurité, sécurité informatique, sécurité physique, donc vraiment sur les sujets d'aujourd'hui. Et en plus, nous avons développé aussi, dans un environnement plus lointain, un module de formation sur les risques environnementaux et donc, grâce à nos talents et nos actuaires, un risque de formation sur les risques climatiques. Donc, je pense que cette culture est assez présente à différents niveaux de l'organisation d'AXA.
Caroline, j'ai une autre question pour vous, sauf si vous avez un commentaire sur la culture à proprement parler. Ce que je voulais savoir, c'est vous avez parlé de la gestion des tiers tout à l'heure et du fait que vous avez commencé à travailler dessus. Est-ce que vous pouvez partager avec nous et gérer nos participants des exemples de... Est-ce que vous avez des conseils, des exemples de bonnes pratiques aussi sur la bonne gestion des tiers et sur tous les chantiers à lancer sur cette problématique?
Oui, tout à fait. Donc nous, comme je le mentionnais, on a démarré effectivement ce parcours il y a un peu plus d'un an, donc sur la gestion des tiers. La première chose, effectivement, a été de pouvoir mettre en place déjà au niveau de la gouvernance et le framework autour de lequel on va pouvoir travailler sur la gestion des tiers. Le premier challenge a été clairement le registre de nos tiers. Donc, c'est pas juste le simple KYC, Know Your Client. Hein, ça va vraiment être travaillé sur le modèle opérationnel de classification de vos tiers, donc vis-à-vis donc, de votre profil de risque aussi, donc de votre entité. D'être capable donc d'identifier ensuite par profil de risque les décliner vis-à-vis des différents risques opérationnels et quelle est votre exposition par rapport à ces types de nos tiers. Donc c'est ce qui a, une fois que vous avez ce registre qui est déjà le premier pilier, mettre en place tout le operating model qui vous permettra ensuite de le monitorer et de suivre les différents expositions. Et là, ces expositions, c'est pour nous le sujet qui a été le plus complexe. On parle vraiment des interdépendances et quand on parle des interdépendance, on va de façon très intrusive dans le système d'information. Vous êtes obligé de regarder quels sont les types de services, les types de data, les différents liens vis-à-vis des différents assets. Et c'est cette partie-là qui est très complexe à mettre en place et complexe principalement en termes d'opérationnalisation. Être à même de pouvoir vraiment être opéré, puisque la question est, en cas de cyberattaque sur un tiers, comment vous allez être capable de réagir, quel est le niveau de risque sur lequel auquel vous faites face. Et donc c'est cette partie-là qui est, je dirais, le challenge, parce que pour pouvoir répondre de façon en temps réel à cette réponse-là, il est important d'avoir opérationnalisé avec le bon niveau d'outillage et le bon niveau aussi d'éducation au travers de l'organisation. Donc effectivement, comme je l'indiquais, hein, c'est LCH intrinsèquement, la partie gestion de crise, c'est notre métier, donc clairement sur la partie davantage sur les aspects métiers, je dirais, sur la partie opérationnelle et de facto. En revanche, sur la partie cyber, c'est là qu'aujourd'hui, il y a un vrai travail d'éducation, donc pour être à même de nous préparer de façon proactive en cas d'événement de ce type. Vous parliez effectivement des groupes de place de robustesse sur lesquels nous participons, qui est clairement toujours des moments surprenants, puisque en fait, on pense avoir être adapté déjà, être anticipé, etc., avec nos différents scénarios de cyberattaque, et capable de répondre. Mais cependant, une fois que vous êtes complètement dans le cœur de l'action, c'est là qu'on voit les forces et les faiblesses du setup. Et effectivement, le dernier exemple était assez intéressant sur une exposition vis-à-vis des tiers. Donc, je pense que vraiment, en termes de préparation, ne pas sous-estimer cette partie-là, qui effectivement est très conséquente, et surtout dans la partie, je vous dis, opérationnalisation, qui est encore pour nous un sujet.
Merci, merci beaucoup, merci à vous deux pour cette table ronde. Je propose qu'on passe peut-être à la section justement qui est en lien avec ce que vous venez de dire, c'est comment se préparer à Dora, qui est un sujet sur lequel on a beaucoup de questions et des éléments à partager avec vous aujourd'hui.
Tout à fait.
On
va reprendre là. Alors, tout d'abord, merci pour ces différents témoignages. Je pense que le comment se préparer à Dora, je pense qu'il a été d'ores et déjà en fait abordé dans les questions-réponses qui a pu y avoir là et dans la présentation de la CPR. Donc, je vais pas faire de redite et rentrer quelque part dans le détail des exigences de Dora. Peut-être pour prendre un peu de recul et mettre en perspective les principes qui selon nous en fait sont importants en fait d'intégrer dans cette approche. Donc, on travaille en fait depuis plusieurs années en fait dans l'analyse et l'interprétation en fait des différents textes réglementaires qui ont été évoqués. Et je pense que l'une des convictions que l'on a, c'est qu'il est essentiel en fait, de traiter cette conformité par rapport à Dora dans l'écosystème et l'environnement global réglementaire. J'entends notamment, on a cité la réglementation Nice un peu plus tôt, Nice 2 désormais, et donc l'une des premières convictions qu'on a, c'est qu'il s'agit aujourd'hui de prendre en fait l'ensemble des contraintes de ces textes réglementaires pour lancer en fait une démarche de conformité. Donc on retient trois grands principes dans cette mise en conformité. Le premier, c'est clairement la convergence. Alors derrière le terme convergence, il y a beaucoup de choses. La convergence des textes réglementaires qu'on a évoqué il y a quelques minutes, mais également la convergence en fait des approches de gestion de risque qu'on a pu observer en fait dans l'entreprise dans ces dernières années, avec, comme le disait Karine un peu plus tôt, une gestion des risques que l'on observe comme étant relativement fragmentée et très silotée. Alors avec une gestion des risques informatiques, séparée de la gestion des risques cyber, séparée de la gestion des risques liés aux tiers, séparée de la gestion des risques liés à la continuité d'activité, et donc qui a permis de monter en fait en maturité sur ces différents sujets, mais qui ne permet pas aujourd'hui d'adresser en fait le nouveau paradigme quelque part qu'amène Dora et qui a fait plutôt l'objet d'un buzzword ces dernières années, que le paradigme de la résilience opérationnelle. Donc pendant un certain nombre d'années, je pense que derrière ce terme-là, on n'arrivait pas forcément à mettre des mots, des exigences, des attentes, notamment du régulateur. Et je pense que désormais, le règlement Dora en fait, permet de poser un certain nombre de principes importants d'appliquer. Et donc parmi ces principes, cette notion de convergence qui implique aussi, de notre point de vue, quelque part de ne pas mettre de côté tous les efforts qui ont été faits ces dernières années. Si je prends le risque cyber, notre enquête annuelle a mis en évidence cette année que plus de 60% en fait des entreprises ont constaté une amélioration en fait de leur gestion du risque cyber. Donc ça veut dire qu'on a un point de départ et ça rejoint le point un peu plus tôt, disant qu'effectivement il y a déjà des efforts qui ont été faits et qu'il s'agit maintenant de rationaliser, d'homogénéiser et d'en transversaliser en fait, cette approche en fait, de la résilience opérationnelle. Et donc très concrètement, ce que ça veut dire capitaliser sur un existant. Alors un certain nombre d'entreprises ont fait le choix de mettre en place un certain nombre de frameworks, donc de frameworks autour de la gestion des risques informatiques, autour de la gestion des risques cyber. Et donc tout ce travail, c'est un travail sur lequel aujourd'hui on peut capitaliser pour répondre aux exigences de DORA. Donc ça nécessite de faire des tables de correspondance qu'on s'est amusé à faire pendant plusieurs mois par rapport aux différents textes réglementaires et aux différents frameworks. Le deuxième grand principe, il a été évoqué un peu plus tôt, c'est le principe de proportionnalité. Pour nous, il est essentiel, étant donné la largeur, on va dire, du spectre en termes de périmètre couvert par DORA. Donc on a des banques, des assurances, des instituts de prévoyance, des courtiers. Donc tout ça, c'est différents types d'organisations avec différents types de contextes, différents niveaux d'exposition en fait, au risque qu'il est pour nous important en fait, d'intégrer. Et donc ce principe de proportionnalité, je reviens un peu plus tard en détail, pour nous est essentiel pour calibrer quelque part le niveau de profondeur sur lequel on doit aller. Et le troisième grand principe, qu'on a intitulé peut-être un peu pompeusement Compliance by Design, qui rejoint, je pense, le point fait par la CPR un peu plus tôt sur la première étape quelque part de cette approche de mise en conformité par rapport à DORA, qui est quelque part de renforcer en fait la gouvernance autour de ces sujets. Je dirais peut-être même parfois la revoir, c'est-à-dire de ne plus traiter en fait cette problématique comme plusieurs problématiques silotées. Je parlais de la continuité d'activité, la cybersécurité, les risques informatiques. Un exemple que j'aime bien prendre au travers de l'expérience qu'on a pu avoir sur le sujet de la continuité d'activité, c'est qu'on a revu un certain nombre de plans de continuité d'activité en fait, depuis plusieurs années qui ne prenaient pas en compte le risque cyber. Si on prend l'exemple des attaques par ransomware, elles peuvent aujourd'hui, et ça a été démontré, amener à une indisponibilité prolongée du système d'information. Et c'est là qu'on voit qu'il y a clairement une interaction à faire qui n'est pas si simple, puisque je pense qu'elle induit également une évolution de la gouvernance. Donc là encore, quelques mots-clés. On pense typiquement que ça passe par l'application du modèle des trois lignes de défense, voilà, avec une perspective qu'apporte ce nouveau paradigme de la résilience opérationnelle. Et si on prend un autre exemple, qui est la gestion des risques liés aux tiers, on ne peut pas aujourd'hui simplement résumer ça. Effectivement, on a un inventaire, vous l'évoquiez tout à l'heure, des parties tierces. C'est un sujet qu'il faut prendre de manière transverse et qui implique en fait plus que les directions de risque ou les directions informatiques. En fait, c'est vraiment des sujets transverses à l'entreprise. Donc en un mot, un sujet d'approche à mettre en œuvre de manière holistique, en fait, de telle sorte à traiter en fait, la problématique dans son ensemble. Donc maintenant, concernant l'approche, on révolutionne pas grand-chose là, mais ça permet quelque part de mettre derrière des deadlines un certain nombre de choses à faire. Donc en termes d'approche, c'est assez simple. On a un certain nombre de clients avec lesquels on interagit qui ont déjà lancé leur gap analysis par rapport à DORA, pardon. Donc ça veut dire effectivement vérifier qu'on a mis en place les exigences de DORA, mais ça veut aussi dire prendre le recul pour pouvoir quelque part mesurer et se dire si on a mis en œuvre le bon niveau, on va dire, de profondeur sur nos différents dispositifs. Et donc là, on en revient au principe de proportionnalité. Donc cette dimension évaluation de l'existant amène bien évidemment en fait, à la mise en place d'un plan d'action. Et ce plan d'action, comme je le disais tout à l'heure, les approches que l'on voit qu'on commence à voir, pour être précis. C'est des approches en fait, qui prennent la problématique de la résilience opérationnelle de sens, d'un point de vue transversal et qui prennent en compte l'ensemble des réglementations en compte, et donc avec une prise de recul qui amène quelque part à aussi consolider un certain nombre d'approches, un certain nombre de programmes de transformation qu'on a vu chez nos clients autour de la cybersécurité, autour de la résilience opérationnelle, autour de la gestion des risques liés aux tiers, peut-être ça de manière un peu moins avancée. On constate une maturité un peu moins élevée sur ces sujets-là, pour en faire un sujet transversal d'entreprise, là où on a souvent vu des projets ou des programmes cyber plutôt localisés dans les départements informatiques ou portés par des responsables de la cybersécurité. Donc je pense que cette mise en perspective et quelque part ce nouveau paradigme par rapport à la résilience opérationnelle amène aussi voilà, une nécessité quelque part de revoir l'organisation et l'approche de ces programmes. Donc pour revenir peut-être en quelques mots sur le principe de proportionnalité, certains le résument en une simple analyse de risque, si je puis dire. Dans les premières discussions qu'on a pu avoir, quand on a apporté en fait ces éléments de discussion, on nous a dit « nous on a déjà fait une analyse de risque, donc on est bon ». En réalité, on le voit, je pense, le projet de règlement DORA et maintenant le règlement DORA amène une perspective complémentaire, c'est-à-dire une compréhension de l'organisation, des différents niveaux d'interconnexion avec l'écosystème étendu, les tiers notamment et les partenaires, les clients, qu'il est nécessaire en fait de prendre en compte, et une dimension liée aussi sur l'analyse de la menace, qui est également aussi nécessaire puisqu'on n'est pas exposé au même type de menace lorsqu'on est acteur du service financier ou qu'on est un acteur industriel. Donc en quelques mots, le type de résultante qu'on attend de cet exercice-là, c'est quelque part aussi de documenter tous ces éléments-là, les différentes caractéristiques de l'entreprise, les scénarios de risque que l'on cherche à couvrir, dans l'objectif ultime, quelque part, de permettre au top management de se positionner sur un niveau de risque acceptable et qui permette de continuer en fait, à opérer ses activités. Et c'est vrai que cette dernière dimension est peut-être un maillon qu'on a parfois vu encore insuffisamment ancré dans les usages, avec une déconnexion parfois entre la vision risque qui pouvait être restituée au management et la réalité, si je puis dire, du terrain. Et donc ça nous a amené en fait à créer un certain nombre d'accélérateurs en fait, parce qu'on a été pas mal challengé par nos clients, sont conscients en fait quelque part de cette difficulté qui à un moment donné de pouvoir faire le lien en fait entre ces différentes couches, la couche analyse de risque, la couche capacité et la maturité en fait de ces capacités, la couche contrôle, de telle sorte en fait à pouvoir restituer en fait au management une vision quelque part fiable de l'avancement par rapport à la conformité, par rapport à DORA ou par rapport à d'autres types de textes. Donc ce qui nécessite quelque part d'avoir différents prismes de lecture et on est aussi convaincu que ça passe par l'outillage, et donc de telle sorte en fait à pouvoir proposer quelque part différents prismes de restitution de cet avancement dans la mise en conformité par rapport à DORA et surtout dans la mitigation des risques en lien avec l'appétit au risque que j'évoquais il y a quelques minutes. Donc vous avez sur cette planche quelque part une illustration d'un outil qu'on a développé chez PwC, et qu'on continue de faire évoluer, qui a vocation en fait à restituer en fait cette vision risque, à la lier en fait aux capacités de résilience opérationnelle, qu'elles soient cyber, liées à la gestion des risques informatiques, liées à la gestion des risques liés aux tiers. Et donc typiquement là sur cette première planche illustration, vous voyez un premier lien établi quelque part entre les capacités et la vision risque, donc qui permet quelque part de pouvoir reporté comme ça a été fait pendant un certain nombre d'années sur une vision maturité, mais également sur une dimension risque. Si on passe sur un deuxième exemple. En fait, cet outil permet également de mettre cela dans une perspective d'organisation qui peuvent être parfois complexes, internationales, et donc dans lesquelles, en fait, il y a une nécessité aussi de pouvoir piloter à un niveau... un niveau local ou un niveau business unit, en fait, ce niveau de maturité, et donc de telle sorte, en fait, à pouvoir expliquer toujours au management les raisons, en fait, pour lesquelles nous avançons de manière significative, peut-être ou peut-être un peu moins, et ça en lien avec le principe de proportionnalité qu'on évoquait tout à l'heure. Et donc, si on passe sur cette dernière vision, qui est également, je pense, extrêmement importante, notamment dans la perspective de lancement de programmes autour de la résilience opérationnelle, qui est quelque part le lien que l'on peut faire au travers de l'évaluation de maturité qu'on fait à un moment donné, donc qui passe souvent par des audits ou des contrôles, notamment dans une dimension contrôle permanent, donc porté par une direction des risques et des contrôles, et une vision opérationnelle sur l'avancement du programme de résilience opérationnelle, donc qui se construit quelque part en projet. Donc c'est encore une nouvelle maille, quelque part à lier avec la vision capacité que j'évoquais avant, et qui quelque part, et le sous-jacent de la mitigation des risques qu'on peut présenter au top management. Et donc, au travers de cet outil, ce qu'on a cherché à faire, c'est quelque part à réconcilier tous les mondes. La première ligne, la deuxième ligne, la troisième ligne de défense, le top management, de telle sorte à pouvoir quelque part proposer une vision cohérente, en fait, de restitution, en fait, de ce sujet. Et je vais m'arrêter là.
Merci beaucoup, Jamal. Je propose qu'on passe aux questions-réponses. Donc, on a reçu un certain nombre de questions de la part des participants, donc parfois en amont de cette réunion et également pendant, donc je vous en remercie. Donc, il nous reste quelques minutes, je propose de les aborder. J'ai le sentiment qu'elles concernent en premier lieu d'abord la CPR, donc je vais vous permettre de vous les adresser directement. Donc, première question, s'agissant des compagnies d'assurance, selon vous, qu'entend la proposition d'Aura par le terme organe de direction?
Ok, très bien. Merci pour cette question. Et c'est l'intérêt des organismes d'assurance à suivre cet événement, donc c'est une bonne chose. Déjà, ce qu'il faut rappeler, c'est que DORA apporte des éléments uniformes pour l'ensemble des institutions financières, mais les acteurs qui sont soumis à DORA sont déjà des acteurs régulés, donc soumis à d'autres textes qui traitent de différents sujets. Bon, pour les organismes d'assurance, le texte de référence, c'est évidemment la directive Solvabilité 2. Donc, effectivement, en matière de gouvernance, il y a le cœur de la gouvernance, c'est ce qu'on appelle l'organe de gestion et d'administration, la MSB, qu'on a pu expliciter lors de la mise en œuvre de Solvabilité 2. Et en fait, cette expression d'organe d'administration de gestion qui n'existe pas au niveau français, on a décidé qu'au niveau français, ce serait soit les conseils d'administration, etc., ou les conseils de surveillance, soit éventuellement la direction générale qui répondrait à cette définition-là. Donc, lorsqu'on parle d'organes de direction d'Andorra, ça peut soit être l'un, soit l'autre. Donc, je n'aurai pas une réponse fermée. Ça va dépendre de l'organisation, de la répartition des pouvoirs au sein des organisations. Mais on s'aperçoit que bien souvent, c'est surtout le conseil de surveillance, conseil d'administration qui est à ce niveau-là. Donc il va falloir regarder dans le texte de quoi on parle. Par exemple, la validation d'une stratégie informatique ou de résilience opérationnelle, ça sera le conseil d'administration qui validera cette stratégie-là. Mais quand on décline la mise en œuvre, etc., ça sera la direction générale. Donc voilà, je n'aurai pas une réponse affirmative pour dire c'est l'un ou l'autre. C'est adapté selon ce qui est couvert par le texte.
Merci pour cette première question. Une autre question qui concerne plutôt le domaine des banques. Donc de façon concrète, comment les petites banques pourront-elles profiter de DORA pour mieux piloter leurs prestataires informatiques?
Alors, je pense que le premier élément, c'est que les prestataires informatiques vont entendre parler de manière plus concrète des besoins du secteur financier et que ceci étant uniformisé à travers l'Europe et à travers tous les sous-secteurs, ces prestataires informatiques auront aussi plus de facilité à répondre aux demandes de leurs clients. Donc, premier élément, l'harmonisation va permettre à des entités financières qui n'ont pas forcément le poids pour négocier leurs demandes en termes de transmission d'informations, en termes d'ajustement des contrats, de les obtenir. Et ensuite, comme vous l'avez vu, il y a un certain nombre d'aspects, en partie volontaires, sur les convergences de clauses contractuelles, etc. On a également l'espoir que des standards se développent, qui soient plus adaptés aux besoins de ces petits établissements. Dernier élément aussi, je dirais, pour la mise en œuvre des obligations d'ORA, puisqu'il est par exemple possible de sous-traiter la remontée des incidents au superviseur, le fait qu'on ait une standardisation devrait aussi leur permettre de trouver les bons prestataires pour leur permettre de rendre compte des incidents qui viennent peut-être de leurs propres prestataires.
Merci. Alors, une question qui n'est pas complètement déconnectée. Quelles conséquences pour le modèle SaaS proposé par les éditeurs de logiciels?
Alors, ma lecture, hein, puisque là, on rentre dans un domaine où les choses vont pas mal dépendre des textes de niveau 2, c'est qu'il n'y aura aucune révolution, aucune spécificité de la réponse face au modèle SaaS par rapport aux autres éléments, puisque, comme toujours, on essaye d'avoir une réglementation qui soit technologiquement aussi neutre que possible. Maintenant, il y a, comme pour toute relation contractuelle, on espère un rééquilibrage de la situation au profit de la résilience. Et deuxièmement, et ça, je dirais, ça ne regarde pas directement le client du prestataire, mais il a à attendre des bonnes choses. Si on a un prestataire logiciel SaaS qui est critique, on peut espérer que la surveillance de ce prestataire améliore la qualité de ses produits en termes de résilience opérationnelle. Et dans ce cas-là, le client, sans avoir d'action particulière à mener, bénéficiera d'une amélioration générale du niveau de résilience opérationnelle de la place.
Merci. Alors, je vais encore prendre deux questions rapidement parce que je vois que l'heure tourne. Comment envisager les exemptions d'une entité financière rattachée à un groupe, par exemple une PME qui serait intermédiaire en assurance, exclue du périmètre de DORA, mais qui appartiendrait à un groupe d'assurance?
Okay, très bien. Question intéressante. Donc, en fait, c'est dans un périmètre de groupe, déjà, effectivement, il faut prendre celles qui sont soumises à DORA, donc ces entités financières qui sont listées. Des intermédiaires d'assurance sont soumis à DORA à partir d'un certain seuil en matière de chiffre d'affaires et le nombre de personnes au sein de l'entreprise. Donc, il faut voir si ça répond ou pas à ces exigences d'inclusion dans DORA. Si ça ne répond pas, donc l'entreprise ne sera pas soumise à DORA. En revanche, la tête de groupe, elle qui sera soumise à DORA, doit appliquer l'ensemble de la réglementation. Et en tant qu'entreprise, elle doit décliner toutes ses responsabilités en matière de suivi de l'externalisation si une activité serait externalisée auprès de cet intermédiaire d'assurance. Donc, ce que rappelle DORA, c'est que dans le cadre d'un groupe, une externalisation intra-groupe ne revêt pas moins de risques qu'une externalisation extra-groupe. Donc, effectivement, c'est un point de vigilance à avoir au niveau de la tête de groupe qui serait soumise à DORA.
Merci. Et dernière question, comment envisagez-vous l'application des règles opérationnelles DORA avec les autres cadres réglementaires existants hors Union européenne? Donc là, on pense bien sûr au UK, par exemple, aux US. Donc, question qu'on a souvent, ça.
Oui, donc c'est quelque chose qui se fera aussi quand les cadres seront stabilisés du côté du Royaume-Uni et des États-Unis, puisqu'on a des projets assez avancés, mais on n'a pas forcément non plus d'adoption aujourd'hui. Donc, premier élément, DORA a vocation à s'appliquer en Europe. Donc, il n'y aura pas de convergence absolue, mais le fait qu'on travaille sur les mêmes standards, ce qu'on a vu lors de la présentation, les standards d'origine américaine NIS ont quand même influencé la conception du risque informatique, y compris dans DORA, fait qu'on a quand même l'impression de parler des langues assez proches, même si après les obligations ne sont pas exactement les mêmes. Le projet britannique, par exemple, semble aller un peu plus loin dans la surveillance des tiers. Donc, il y aura après des marges pour une plus grande coopération à l'avenir, mais en étant les premiers à agir, on est un peu comme sur RGPD en Europe, on espère pouvoir quand même donner le ton sur des bases qu'on a essayé aussi consensuelles que possible par rapport aux standards internationaux en matière de résilience opérationnelle. Donc je dirais que nous sommes optimistes et comme toujours, s'il y a besoin d'harmonisation ultérieure, s'il y a besoin également de reconnaissance d'équivalence, c'est des choses sur lesquelles on travaillera. Le domaine de la résilience opérationnelle est un domaine qui est surveillé de manière assez attentive par le comité de Bâle, par l'IAIS. C'est aussi un domaine dans lequel le FSB est très actif. On le sait moins, mais le G7 a aussi un groupe d'experts cyber qui se réunit en permanence, quelles que soient les présidences du G7. Donc cette question de la convergence, de la non-contradiction et d'un effort commun pour une prise en compte à la fois concrète et réaliste du risque financier et du risque cyber, qui sont deux éléments mondiaux, est bien pris en compte par les régulateurs.
Merci beaucoup. Alors, déjà, je voulais vous remercier tous d'avoir pu animer avec moi cette conférence et répondre et vous faire partie de accepter ces échanges avec les questions qui sont posées aujourd'hui. Je remercie aussi tous nos participants d'avoir été là aujourd'hui. Vous recevrez, donc cette conférence était enregistrée bien sûr, donc vous recevrez rapidement le lien vers le replay de cette conférence. Pour tous les sujets de mise en conformité à DORA, vous avez nos contacts si vous souhaitez approfondir les sujets. Je vous rappelle également la conférence annuelle de la CPR qui se tient le 5 décembre prochain sur le sujet. Et vous allez voir apparaître, pour ceux qui sont à distance, rapidement un lien vers un questionnaire de satisfaction. Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir y répondre, s'il vous plaît, pour nous donner votre avis sur cette conférence. Merci à tous, très bonne journée et à très bientôt. Merci.